Bonsoir. Une grande partie de l'ancienne province de l'Équateur est touchée par des inondations depuis près de 3 semaines. À Bumba, par exemple, les quartiers entiers sont désertés. Les vivres se font de plus en plus rares sur les marchés avec hausse des prix. Les sinistrés déplorent l'indifférence des autorités compétentes et l'absence jusque-là d'appui humanitaire. En réaction, le ministre de la Solidarité nationale et Action humanitaire annonce une aide gouvernementale pour bientôt. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le débat de ce soir et dans cette émission, nous avons ici au studio Dr Freddy Mbakata, il est député national et directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement ADES en sigle. Cette ONG collabore avec le HCR. Bonsoir Dr Freddy Mbakata.
Bonsoir.
Steve Mikai, il est au téléphone, il est ministre de la Solidarité nationale et Action humanitaire. Bonsoir Monsieur le ministre Steve Mikai.
Bonsoir.
Et Mangili Mampange, il est président de la nouvelle société civile de Bumba dans la province de la Mongala. Bonsoir, monsieur Mangili Mampange. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La ville de Bumba dans la Mongala fait face actuellement à de graves inondations suite à la crue du fleuve Congo. Des quartiers entiers sont désertés, les vivres se font de plus en plus rares sur le marché avec hausse des prix. Une catastrophe qui affecte des milliers de ménages dans les quartiers marécageux. Cependant, les sinistrés déplorent l'indifférence des autorités compétentes et l'absence jusque-là d'appui humanitaire. Les points avec Paul Richard Malengela.
D'après des habitants joints au téléphone, dans certains quartiers de Bumba, ils se croient dans la ville italienne de Venise. Certains quartiers sont inondés, notamment Lokele Moloa, Bopoto, Mobutu, Sedek et autres. Des centaines d'habitations sont abandonnées, d'autres totalement écroulées, affirme-t-il. Dans ces quartiers, des puits d'eau sont souillés, tandis que les latrines offrent un spectacle dégoûtant avec leurs excréments sur les eaux stagnantes du fleuve. Un secouriste de la Croix-Rouge dit craindre bientôt la recrudescence du choléra, puisque les riverains qui ne savent où aller s'en servent pour la boisson. Ailleurs, toujours dans la ville, ce sont des points de passage qui sont bondés d'eau du fleuve Congo qui a quitté son lit. Même le pont Moloa sur la nationale numéro 6 qui relie Bumba à Lisala est sous eau, indique-t-on. Là, tout mouvement se fait par pirogue pour passer d'un coin à l'autre, soit aller chercher des vivres. Des vivres qui connaissent déjà une pénurie inquiétante, notamment la chikwang, les cossettes de manioc, le poisson et le bois de chauffe, a expliqué une ménagère. Les habitants de Bumba se disent abandonnés et dénoncent l'indifférence des autorités tant locales, provinciales que nationales. Car depuis la survenue de cette catastrophe naturelle il y a un mois, aucun camp d'hébergement des déplacés n'a été érigé. Aucun appui non plus en vivres, médicaments ou vêtements jusque-là, soulignent nos sources. Mbandaka pour Chamanengela, Radio Okapi.
Merci à vous Paul Richard Malengela. Steve Mbikai, vous êtes ministre de la Solidarité nationale et Action humanitaire. Quelle est la situation ce jeudi dans cette partie de l'ex-Équateur qui est touchée par les inondations, par exemple dans les villages Yamalota, Boela, Yaliko, Bokata et Mandungu?
En tant que ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, je ne peux pas me limiter à parler seulement de la ville de Bumba. Il faut signaler que la province du sud de Ubangi est touchée, autant que celle du nord Ubangi. Et il y a la Mongola aussi qui est touchée en partie, mais aussi un territoire de la province de l'Équateur. Donc partout là, il y a des inondations, ça fait quelques semaines, il y a beaucoup de familles qui sont par dizaines de milliers qui sont dehors parce que les maisons sont sous eau. Il y a des villes où carrément les gens circulent en pirogue. Donc il y a menace d'épidémie ici et là. Voilà la situation pour moi était présente. Et nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour pouvoir intervenir. J'avais réunion il y a 3 jours avec Ocha, aujourd'hui encore ce matin avec Ocha, pour voir comment coordonner la riposte à cette urgence.
Monsieur le ministre, nous venons de suivre ces reportages de notre confrère Paul-Richard Malengela. Les quartiers entiers sont inondés, des centaines d'habitations abandonnées, d'autres totalement écroulées. Les puits d'eau sont remplis d'eau souillée, tandis que les latrines offrent un spectacle dégoûtant. Monsieur le ministre, ça fait 3 semaines, n'est-ce pas, que cette situation perdure et les sinistrés n'ont reçu aucune aide jusque-là. Vous dites qu'il y a de cela 3 jours, vous êtes réunis avec OCHA. C'est seulement 3 jours, alors que ça fait 3 semaines que cette situation perdure. Comment vous justifiez le fait qu'il n'y a pas d'aide, alors que ça fait 3 semaines que les gens sont dans cette situation?
Donc, nous ne sommes pas restés indifférents. À mon niveau, en tant que ministre des Actions humanitaires, j'avais, depuis le 4, transmis un budget au ministère de budget pour avoir le moyen d'intervenir. Mais comme vous savez, nous faisons face à beaucoup de contraintes, la situation financière étant au rouge. Donc les services, la chaîne de dépenses étant en traité à pouvoir les moyens à dégager pour intervenir. Et aujourd'hui, j'ai été invité par le ministre des budgets à une réunion où on s'est mis d'accord sur des chiffres retenus pour les interventions. Je suis certain que dans 48 heures, ça va évoluer et nous allons partir sur le terrain pour amener l'aide aux sinistrés. Il n'y a pas que là-bas. Il y a eu une inondation à Kisangani, il y a eu des raillements ici et là, il y a eu beaucoup d'accidents. Et comme dans le pays, les normes ne sont pas respectées, on a fait face à plusieurs contraintes à la fois. Et les moyens étaient limités, voilà pourquoi ça a pris un peu plus de temps pour le faire. Mais on a déploré aussi le fait de l'absence des humanitaires sur le terrain. Nous pensons que la semaine prochaine sera plus décisive en matière d'intervention.
Voilà, vous dites que vous êtes réunis avec le ministre du Budget au sujet des chiffres retenus pour des interventions. Est-ce qu'on peut connaître, si ce n'est pas un secret, on peut connaître ces chiffres-là? Il s'agit de combien?
Non, mais ça dépend. Chaque entité à sa situation, Zongo à sa situation, au nombre de ménages qui sont dehors. Nous avons Businga, Badolité, Mbayimbongo, Yakoma, qui sait encore. Donc je ne pense pas que ce soit le lieu indiqué de pouvoir parler de quels chiffres, mais l'essentiel à retenir est que d'abord nous regrettons le fait que cette intervention s'est faite en retard, parce qu'en matière humanitaire, il faut intervenir dans 12 à 72 heures, mais la situation financière n'a pas permis qu'on puisse le faire. On se rattrape tout de même pour aller vite et puis aider ses compatriotes.
L'ONG catholique Caritas évoque un bilan provisoire des 597 ménages sinistrés, 118 maisons touchées, dont 45 complètement détruites. Plus de 14 000 ménages sont enregistrés à Zongo, alors que 1141 familles sont sans abri à Libengué. Est-ce que vous confirmez ce bilan qui n'est que provisoire, monsieur le ministre?
Bon, en matière de bilan, je n'aime pas souvent m'hasarder parce que dans beaucoup de cas, la plupart des bilans sont contredits. J'en ai reçu de plusieurs sources et je me réserve de pouvoir les annoncer. Mais comme je vais être sur le terrain moi-même avec mes services, je pense que je vais faire face à la réalité. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir venir en aide à ces gens. Il faut qu'ils aient des bâches pour d'abord s'abriter, il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient donc vivre non vivre pour en général, pour en attendant qu'on voit quand l'eau va partir, comment les aider à reconstruire leur maison pour rentrer sur le lieu. Donc je ne voudrais pas entrer dans ce cœur de chiffres parce que personne, à mon avis, ne peut maîtriser totalement ces chiffres.
Il est des notoriétés publiques que chaque fois qu'il y a des catastrophes en RDC, les interventions arrivent souvent en retard. Monsieur le ministre, est-ce qu'il existe dans ces pays un plan de secours en cas de catastrophe?
Donc, comme je suis de vous dire, la situation est tellement complexe dans la mesure où aucune norme n'est respectée, que ce soit en matière de construction, n'est-ce pas, d'urbanisme. Nous avons des taudis qui sont construites les unes à côté des autres en bois. donc une case parfaite, c'est tout le monde qui est en débandade. Nous avons des véhicules surchargés sur des routes, nous avons des véhicules non contrôlés techniquement, nous avons des baleinières vieilles de 10 ans qui continuent à naviguer, qui sont des cercueils navigants. Donc tout ça, ça fait que quand même, l'État ne peut pas gérer les conséquences de ça au même moment. C'est pour ça qu'il faut commencer. Nous commençons par demander le respect des normes dans tous les secteurs pour diminuer le risque des urgences. Et là aussi, ne parle pas catastrophe. Hein. Les gens confondent beaucoup catastrophe et situation d'urgence. Ici, nous faisons face aux situations d'urgence. On dit catastrophe quand un pays n'est pas en mesure de répondre à ce qui arrive et a besoin et demande une assistance internationale. Mais par contre, l'urgence, on peut y faire face par l'État, mais avec l'appui des agences internationales qui sont au pays. Donc, nous devons faire la part des choses entre tous ces concepts.
Est-ce que, Monsieur le ministre, est-ce qu'on n'est pas dans cette situation d'urgence parce qu'on se rend compte que le gouvernement congolais a du mal, n'est-ce pas, seul à pouvoir intervenir?
Non, nous avons connu du retard, bien sûr, mais quand nous allons être sur le terrain avec nos moyens, c'est au cas où ces moyens seraient insuffisants que nous pourrons parler, n'est-ce pas, d'un cas de catastrophe qui demanderait une assistance internationale. Mais tel que je vois la situation, je pense que avec nos moyens et l'appui des ONG qui sont dans l'humanitaire, mais aussi des présences dans son jury qui sont au pays, nous pourrons arriver à maîtriser la situation. Mais tout de même, je continue à déplorer le fait que, par manque de moyens disponibles, nous avons pris du retard.
Merci Mangili Mampangé, président de la société, de la nouvelle société civile de Bumba dans la province de la Mongala. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation à Bumba où vous êtes actuellement?
Effectivement, c'est plus d'illusions qui s'abattent. Des Congo et Bumba n'est pas épargné. La province de la Mongala en général et Bumba en particulier, et plus précisément dans le territoire de Bumba, ces pluies diluviennes ont fait à ce que le fleuve Congo a quitté son lit à plus de 400 mètres. Il est allé à plus de 400 mètres et n'a pas épargné les habitants qui logeaient les 400 mètres là où il est entré. Alors que son passage habituel n'était pas là-bas. Et les quartiers touchés sont les quartiers Moulua, le bloc Sedec, Bopoto, sur place à Bumba, et Enulo, la Penzekeni, qui est aussi habité par beaucoup de gens. Et certaines données partielles que nous pouvons vous fournir, c'est de ce qui s'est passé sur place à Bumba, il y a 853 maisons qui sont dans l'eau, 1195 ménages sans abri, 1161 personnes touchées, parmi lesquelles 412 enfants de moins de 5 ans. Il y a des écoles primaires qui sont dans l'eau, 9 églises, 2 centres de santé et un marché. Là, c'est sur place dans la cité de Bumba. Si nous quittons Bumba, nous allons dans le secteur, dans le secteur de Timbiri, nous avons des localités qui sont touchées par les inondations, non pas du fleuve Congo, mais de la rivière Timbiri. Il y a la localité Paipai, localité Alindiko, localité Bomenge, localité Yaliko à Lolo, localité Lundu. Et toutes ces localités sont les longs de la rivière Timbiri. Quand nous quittons le secteur de l'Itimili, nous arrivons au secteur de la Loeka, nous avons les îlots qui sont surpeuplés, les lots du fleuve Congo, l'îlot Mokeke, l'îlot Central, l'îlot Mondo, et au niveau de Botekou, nous avons une partie là de Botekou, qu'on appelle le Kelele Lissobe, qui n'a pas été épargné par cette inondation. Quant à ce qui est de la province du Nord Ubangi, ça c'est pour la province de la Mongala. Nous avions aussi une idée pour la province du Nord Ubangi. La rivière Ubangi qui est sortie de Soli et ses eaux ont inondé trois groupements du territoire Mobayimbongo. Il y a le groupement Pumbu, le groupement Ndawele, le groupement Sango et plusieurs maisons se sont écroulées. La route Mobayimbongo mène vers Kotakoli et dans l'eau à des endroits, rendant ainsi la circulation difficile. Les hôpitaux de Businga et locaux sont dans l'eau. Mais pour ce qui est la province du Sud Ubangi, on n'a pas eu de renseignements. J'ai tenté en vain d'entrer en contact avec les amis là-bas. Et vraiment, face à toutes ces inondations, la nouvelle société civile congolaise pour laquelle nous sommes coordonnateurs à Bumba, comme aussi c'est qu'avait dit l'honorable député national Jean-Pierre Lihaou, craint l'apparition des maladies épidémiologiques si rien n'est fait à temps. Et l'abandon forcé de plusieurs ménages vers les nouvelles familles d'accueil perturbe la vie sociale et la rend par conséquent difficile.
Mangili Mampangé.
Le service est... Oui.
Oui, qu'est-ce que vous, de la société civile, vous avez essayé de mener comme démarche pour interpeller les autorités et les humanitaires?
Bon, on ne pouvait pas. Les autorités sur place se sont investies. Les chiffres que nous avons ici relèvent leur service. Alors, les humanitaires, nous ne devons pas seulement sortir directement vers les humanitaires. Il faut partir, ce sont les voies par lesquels nous devons aller. Nous vous tenons informés, vous à votre retour, vous faites votre bien. C'est seulement quand les autorités traînent les pas que nous devons sortir pour alerter les autorités, les humanitaires. C'est comme ça que nous faisons.
Alors, on déplore le comportement de la part de certains citoyens qui habitent dans les lits de certaines rivières. Y a-t-il des actions de sensibilisation, n'est-ce pas, de la part de vous, membres de la société civile, pour essayer de sensibiliser la population sur les risques qu'elles encourent du fait d'habiter dans les lits des rivières ou sur des terrains marécageux?
Oui, les sensibilisations n'ont pas manqué. Elles ont toujours eu lieu, mais qu'est-ce que vous voulez? Disent les connaisseurs à la matière et que l'homme pauvre construit là où il peut, tandis que celui qui a des moyens construit là où il veut. Nos amis qui subissent la rigueur de toutes ces inondations construisent là où ils peuvent. Il n'y a pas de moyens suffisants pour aller construire là où ils veulent. Raison pour laquelle ils ne savent pas que là où ils sont en train de construire, tôt ou tard, comme chez nous ici, c'est chaque après 4 ou 5 ans que le fleuve sort de son lit pour passer là où il passait jadis. Et par conséquent, il menace les paisibles cités qui sont là-bas. Il faut sensibiliser. Et maintenant, c'est l'implication du gouvernement aussi. Le gouvernement doit s'impliquer pour qu'on ne revienne pas de temps à autre avec tout ce qui se passe. Pour qu'on les délocalise et qu'on les mette quelque part là où ils ne seront pas embêtés par les inondations, par exemple.
On redoutait la résurgence de certaines épidémies comme les choléras. Jusque-là, aucune épidémie n'a été déclarée, jusque-là?
Bon, à notre reconnaissance, pas encore, mais on redoute et ça, on craint les maladies épidémiologiques, les choléras, telles que toutes les installations sanitaires, les water closes, vraiment sont à découvert, les eaux sont entrées là-bas, et tous les déchets sont à découvert. Alors, et si on ne fait pas attention, le choléra est vraiment à côté de ces pauvres gens-là. Et merci. La malaria, qui est une maladie endémique, maintenant que la montée des eaux est à son comble,
merci.
Les moustiques se multiplient à grand nombre, Les gens ne sont pas épargnés. Les écoles ne fonctionnent plus comme à Lokele Mongala, à Lokele Moudoua. Ils sont déménagés, ils sont des familles d'accueil, ces enfants là-bas. On ne sait pas où est-ce qu'on va les amener. Vraiment, l'intervention s'avère urgente.
Merci.
Et puis que le service technique relatif aux actions humanitaires est en pied d'œuvre. Et nous vous rassurons que toutes ces données chiffrées seront revues à la hausse. Parce que vraiment, c'est très grave.
Merci,
c'est très grave. Il y a même des images que nous avons ici qu'on pourra vous envoyer.
Merci, Mangili.
Il faut des pirogues.
Merci.
Aller vers l'Utimiri, il faut des pirogues.
Voilà, nous avons compris.
Il faut des pirogues, les motos circulent difficilement.
Merci, Mangili Mampangé. Docteur Freddy Mbakata, député national, vous êtes directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADES en sigle. Cette ONG collabore avec le HCL. Comment vous analysez cette situation dans l'ex-province de l'Équateur?
Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais faire une précision. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je ne suis plus directeur général de l'ADCC parce que vous savez que les ONG sont des entités apolitiques. Il y a mon collègue, le docteur Kapika, qui est maintenant le directeur général. Bien, comme vous pouvez le voir, que ce soit les ministres, que ce soit notre ami de la société civile, ils décrivent très 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 bien la situation. Et nous ne devons pas avoir peur de mots. Nous devons dire que nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle. N'en déplaise à son Excellence Monsieur le Ministre qui parle d'une situation d'urgence. Non, c'est pas une situation d'urgence. C'est une situation de catastrophe naturelle. D'ailleurs, si vous suivez très 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 bien la situation, en République centrafricaine, le long du fleuve Obangui, il y a une situation de catastrophe naturelle qui est déclarée dans toutes ces zones-là. Donc, nous ne devons pas dire que nous, ici chez nous, c'est une situation d'urgence. Non. Et je suis content que le ministre des Affaires humanitaires décrit très bien lui-même la situation. Il dit que dans 48 heures, si vous n'avez pas intervenu, votre intervention n'aura pas beaucoup de bénéfices. Voilà. Et Monsieur Guy, vous le savez très bien, c'est la énième fois que je passe ici sur votre plateau quand j'étais directeur général de la DCC. Je suis maintenant au Parlement. J'appartiens à un regroupement politique qui est appelé Palou et Alliés. Lors de la présentation du programme du gouvernement par son Excellence Monsieur le Premier ministre, notre regroupement politique a fait une proposition de création d'une banque humanitaire. Et je le conseille vivement à son Excellence Monsieur le Ministre qui me suit en ce moment et qui est très actif, très dynamique, comme on le connaît. Il doit, notre gouvernement doit prévoir, parce que les catastrophes naturelles surviendront toujours. D'ailleurs, il ne se passe même pas une semaine sans que nous apprenions qu'il y a des pirogues ou je ne sais pas moi quoi, des bateaux qui ont chaviré là-bas et qu'il y a un accident mortel qui a dans lequel beaucoup de nos compatriotes ont péri et qui a ceci et cela. Donc, les situations de catastrophes naturelles surviendront toujours. Et en créant la banque humanitaire, le gouvernement ne fera que prévoir. Qu'est-ce que c'est une banque humanitaire? Peut-être que le terme fait peur aux gens. Voilà, une banque humanitaire, comme son Excellence Monsieur le Ministre est là, il doit prévoir, c'est-à-dire, il doit se dire, au cas où il y aurait un accident, au cas où il y aurait un déplacement massif de population suite à des conflits armés ou à des refoulements de population, que doit faire le gouvernement? Ces gens, quand ils arrivent, de quoi est-ce qu'ils auront besoin dans les premières 48 heures? Donc, en réfléchissant ici, Monsieur le ministre doit prévoir de grands hangars avec des palettes sur lesquelles on doit prévoir les biens de première nécessité. Dans le cas des inondations, dans cette banque humanitaire, il devrait y avoir des tentes, il devrait y avoir des bâches, il devrait y avoir des jerricanes, il devrait y avoir de l'eau potable, on devrait avoir des nattes et de couvertures. Si on avait ça stocké quelque part, dès que la catastrophe survient, notre ministre ne cherchera que la logistique. Il prendra un avion, on va louer un avion, il atterrit sur place, il donne ça à la population. Et la population sera très heureuse de voir que le gouvernement intervient dans les meilleurs délais. Donc, mais maintenant, il y a trois semaines
rappelez,
de cela.
Vous rappelez cette idée que vous avez toujours proposée,
oui,
celle d'institutionnaliser une banque
humanitaire au niveau national et au niveau provincial.
Si cela existait, vous pensez qu'on ne serait pas en train de déplorer cette absence
On aurait déjà sauvé beaucoup de vies. Mmh. On aurait déjà sauvé beaucoup de vies. Parce que en 3 semaines, tout à l'heure vous avez posé une question, est-ce qu'il y a déjà des maladies qui sont déjà survenues? Je vous dis que oui, moi je suis médecin de la santé publique. Assurément des enfants qui font des diarrhées, assurément des enfants qui font de la fièvre, assurément des enfants qui sont déjà morts. Donc 3 semaines sans aide humanitaire, c'est déjà regrettable. Je suis content que le ministre saisit bien la situation et je lui conseille de créer cette banque humanitaire au niveau national, peut-être aussi au niveau provincial, pour qu'à l'avenir, qu'on puisse subvenir en des cas pareils dans moins de 48 heures.
Le ministre Canos, vous avez suivi, il a annoncé une aide du gouvernement pour bientôt, mais comment une intervention pourrait-elle être efficace à l'absence des statistiques fiables sur les personnes ainsi que les localités qui sont affectées par ces inondations?
Non, moi je sais que les statistiques sont en train d'être récoltées maintenant. Vous savez, les statistiques, comme le ministre a très bien dit, comme notre collègue aussi l'a bien dit, les statistiques bougent. Ce sont des statistiques très mobiles. Il continue à pleuvoir jusque maintenant. Ce n'est pas qu'il a plu, qu'il y a des eaux qui stagnent et qu'il ne pleut plus. Donc la situation que vous pouvez identifier aujourd'hui peut être modifiable dans 2 ou 3 jours. Donc les statistiques sont volatiles et au moins, avec ce qu'on a, on peut déjà intervenir.
Merci, monsieur le ministre.
Et puis, j'aimerais ajouter, cher ami, oui. je m'excuse beaucoup.
Je vous en prie.
Le ministre dit que voilà, on a contacté les humanitaires. Non, qu'on cesse de nous ridiculiser comme ça. Les humanitaires ne viennent qu'en appui. Dans des pays sérieux, bien organisés, c'est le gouvernement qui est en premier plan. Si c'était en France, si c'était dans des pays développés, le gouvernement français ou de ce pays-là n'allait pas dire que nous avons réuni les humanitaires. Non, que notre gouvernement soit en premier plan et notre gouvernement est capable de bien agir pourvu qu'on programme à temps.
Merci, monsieur le ministre. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, passant depuis Lubumbashi de la province du Haut-Katanga. L'intervention du gouvernement congolais au sinistre des catastrophes naturelles pose toujours problème dans ce pays. Depuis plusieurs décennies, et des gouvernements qui se succèdent brillent par cette attitude laxiste. Cela est démontré même par le budget modique alloué à cette fin. Je donne raison à M. Alki Kenge qui a dit « Plus on est loin de Kinshasa, plus on se croirait que l'on est dans un autre pays où la présence de l'autorité publique est presque inexistante sur le plan sanitaire et sécuritaire. » C'est vraiment une honte pour ce pays, pendant que des milliers de dollars disparaissent dans les caisses de l'État. Il y a quelque part un Congolais qui a besoin juste de médicaments pour sa survie. Ça doit interpeller les autorités, cette situation.
Monsieur le ministre Steve Mikaï.
Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec les intervenants, surtout très d'accord avec l'intervention très pertinente de l'honorable qui vient de parler. Et j'affirme aussi que nous ne devons pas compter sur les humanitaires, nous devons nous assumer en tant que gouvernement. Mais comme ces humanitaires ont des gens partout, nous avons pensé que pour avoir des chiffres réels, on pouvait les mettre à contribution et pour voir ensemble si réellement si on nous dépasse avant de pouvoir penser à demander l'aide internationale. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit et puis tout ce qu'il a fait comme proposition. Mais avant de déclarer qu'il s'agit d'une catastrophe, j'ai pensé que je vais d'abord arriver sur les lieux et pour voir si les moyens à ma disposition ne seront pas soulagés des compatriotes par rapport au gouvernement afin qu'on déclare une catastrophe qui pourra demander que nous puissions avoir une aide internationale. Et je suis d'accord aussi avec sa proposition de créer une banque pour la gestion des aspects humanitaires. Mais nous avons déjà créé une agence de gestion des fonds humanitaires qui a le même rôle. Nous sommes en train de la mettre en place et dans les prochains jours. D'ailleurs, d'ici 2 jours, nous avons une cérémonie pour la présenter au public et donner les méthodes de fonctionnement. Je pense que nous devons, comme il a dit, avoir des stocks disponibles pour intervenir en temps réel. C'est pas normal que nous puissions intervenir après 1 semaine, 2 semaines. Non, c'est pas normal. Donc, comme les moyens sont limités, il faut qu'on ait une pari-agence qui aura des fonds disponibles pour intervenir en temps réel.
Voilà, vous l'avez reconnu vous-même que l'ex-province de l'Équateur n'est pas l'unique entité concernée par les inondations. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de quartiers dans beaucoup de provinces qui ont été affectés, notamment la ville de Kinshasa. On parle des Ndanou, on parle des Makelele. Qu'est-ce qui a été fait, s'il faut parler, par exemple, de la ville de Kinshasa, qu'est-ce qui a été fait jusque-là par le gouvernement congolais?
Non, pour la ville de Kinshasa, afin d'éviter ce qu'on a connu, je pense que c'était en décembre 2017, j'ai envoyé mes services en mission sur le terrain, partout il y a des érosions, notamment en Danou. Ils vont sûrement commencer la semaine prochaine pour faire le constat et faire rapport au gouvernement afin qu'on prenne des mesures anticipatives pour ne pas retomber toujours dans des catastrophes et puis commencer à agir en retard. Mais comme je disais, nous sommes dans un vaste chantier, hein, notre pays, presque tout est à refaire sur le plan du respect des normes. Alors tant qu'on n'a pas respecté des normes, nous serons toujours dans des catastrophes et dans des urgences, même si, même dans des pays plus organisés, ils tombent aussi dans des situations pareilles. Mais chez nous, c'est venu franchement quotidien, et ce n'est pas normal pour un pays.
Monsieur le ministre, une question qui vous est adressée par l'honorable Louis Elongama de l'Assemblée provinciale de Bassankoussou. Il dit ceci: lorsque je suis le ministre, il ne fait pas allusion à Bassankoussou, alors que nous vivons la même situation que Zongo et les autres villes, les autres entités qu'il cite. Les gens passent nuit à la belle étoile, les familles sont sinistrées, 610 maisons affectées, dont 1885 ménages avec 10860 victimes, selon les rapports de l'administrateur du territoire. Pourquoi Bassankoussou est oublié, monsieur le ministre?
Bon, je suis en train de recevoir des informations progressivement. Tout est par c'était d'abord Nord-Ubangi, Sibobangi. Ce n'est qu'hier que j'ai reçu le député Marcel Yaou qui est venu me faire part la session de la Mongala. Et là aussi, j'apprends qu'il y a Bassankoussou. Donc, tout à l'heure, quand je parlais, pour généraliser, ne pas oublier les uns les autres, je parlais carrément de l'ancienne province de l'Équateur. Donc, qui est pratiquement inondé. Voilà, je reconnais qu'il y a des coins qui sont inondés dont je n'ai pas encore reçu des rapports.
Mangili Mampangé, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Je vous appelle depuis la ville de Kisangani. C'est grâce à Bakajika. Cette province est dans la négligence gouvernementale depuis le régime passé à ce qui concerne l'entretien et la modernisation des routes et des caniveaux. Elle n'a pas bénéficié de l'émergence urbaine. Annoncer une aide pour bientôt, c'est bien, mais le ministre de la Solidarité nationale et Action humanitaire doit savoir que cette province est dans l'état d'urgence. Le gouvernement doit faire quelque chose pour sauver la vie de ses habitants qui sont face aux différentes maladies. Et il faut savoir aussi que la responsabilité est partagée entre les autorités compétentes et les habitants de cette province pour l'entretien de leur quartier. Ces habitants ont aussi leur part de la bonne gestion des immondices.
Mangili Mampangé.
Je vous écoute. L'ami de Kisangani a parlé des problèmes des immondices. Bon, les responsabilités, ce ne sont pas les immondices qui ont fait appel à ce que le fleuve Congo puisse quitter son lit et aller là où les paisibles citoyens habitaient. Ce n'est pas le problème des immondices ici. Ils pouvaient plutôt parler. J'ai évoqué ça. S'ils m'avaient suivi, s'ils nous avaient très bien suivi, j'avais dit que le pauvre construit là où il peut, tandis que le riche construit là où il veut. Le problème chez nos paisibles citoyens ici, ils construisent là où ils peuvent. Il n'y a pas de moyens suffisants. Et même là où, à côté de l'eau, ils construisent, tout en oubliant que demain ou après-demain, ils seront embêtés par ces eaux-là. Alors, ce n'est pas le problème des immondices qui a fait que le fleuve Congo puisse quitter son lit et aller au-delà de 400 mètres, comme je l'ai évoqué si haut. Que la ville de Kisangani sache que s'ils ont construit là-bas, le problème, c'est qu'ils pouvaient plutôt évoquer le problème de l'urbanisme et qu'on ne sait plus que résolument tous à faire que ces pauvres citoyens puissent quitter ces habitations-là et qu'on aille, qu'on puisse les délocaliser et qu'on les mette là où ils ne seront pas embêtés par ces catastrophes naturelles, qu'on puisse les prévenir, qu'on les délocalise, qu'on les mette quelque part, de sorte qu'ils ne puissent être frappés par ces catastrophes naturelles, être à côté du fleuve, à quelques mètres du fleuve, alors que quelques jours après, le fleuve peut déborder et causer ce que nous, les situations devant lesquelles nous assistons aujourd'hui. C'est ça mon interprétation à la réponse à la réaction de mon frère de Kisangani.
Oui, Mangili Mampangé, vous dites que les pauvres construisent là où ils peuvent, mais il est aussi, n'est-ce pas, du devoir de vous, société civile, de pouvoir sensibiliser ces pauvres sur, n'est-ce pas, les dangers qu'ils encourent quand ils construisent sur des endroits dangereux. Mais est-ce que vous avez identifié à Bumba un espace viable, n'est-ce pas, où on peut amener toutes ces personnes qui vivent dans les lits des rivières, un endroit viable où on peut les amener pour qu'ils ne soient plus, n'est-ce pas, exposés chaque fois quand il y a débordement des rivières. Voilà, apparemment nous l'avons perdu. Et docteur Mbakata, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Isangi dans la Tchopo.
Merci, c'est ça là, depuis Isangi dans la province de la Tchopo. C'est avec regret et larmes aux yeux que nous déplorons ce genre de choses qui se passent dans notre pays. Environ 3 semaines que beaucoup de familles vivent sans abri et à la belle étoile, sans assistance ni aide à provenance du gouvernement central et provincial vis-à-vis de cette population qui souffre. Et les ministres parlent plutôt qu'il y aura des aides et assistances à bientôt, alors que la population sont en train de souffrir de plus en plus. Et où est le gouvernement, voire même le chef de l'État, pour venir en aide comme père de famille et non élus du CASH et de l'FCC sont où pour parler à la place des victimes, où ils sont là juste pour voir leurs intérêts égoïstes au lieu de venir assister cette population qui sont en état de la détresse, qui peut être soulagée psychologiquement ou moralement à leur présence. Malheur au peuple congolais, car sommes-nous abandonnés par notre propre gouvernement qui arrive toujours en retard pour l'assistance.
Docteur Freddy Mbakata.
Bien, merci. Je crois que notre camarade a raison de regretter. Il dit qu'ils ont des larmes aux yeux, l'aide n'arrive pas, le gouvernement les a abandonnés. Mais d'un côté, j'apprécie d'abord, et c'est l'une des rares fois, sans flatter le ministre Bikai qui est avec nous aujourd'hui. C'est l'une des rares fois que je vois un ministre des Affaires humanitaires devant des catastrophes pareilles, devant des problèmes pareils, qui accepte de répondre. Vous êtes avec moi à plusieurs reprises par le passé. Plusieurs ministres ont fui de répondre. Mais lui, il est là. Il assume. Et si nous l'avons lu entre les lignes, le gouvernement vient d'être installé, le budget de l'année passée est épuisé, voilà. Il faut un budget actuel,
un budget.
Et il prend conscience de toute cette situation. Donc, espérons qu'avec lui, il va prendre les taureaux par les cornes et il verra qu'est-ce qu'on doit faire pour que de pareilles mesures n'arrivent plus. Mais en attendant, nous assumons le passé et le ministre mêmement. Mais au moins, avec lui, au moins, on peut dialoguer, on peut parler. Il n'a pas fui, il assume et il dit il n'y a pas seulement que l'ancienne province de l'Équateur, il y en a d'autres. Donc il est au courant de la situation. Donnons-lui un temps pour qu'il s'organise, qu'il mette vraiment sur place des mécanismes qui feront que demain, si une catastrophe arrive, nous apprendrons qu'à moins de 48 heures, notre gouvernement est intervenu. Ce que nous disons pour le gouvernement central est valable aussi pour le gouvernement en province. Au niveau de province, on peut créer aussi des petites banques humanitaires. L'intitulé de notre ministère...
On peut décentraliser.
L'intitulé de notre ministère, c'est quoi? Ministère des Affaires humanitaires et Solidarité nationale. Donc, même en province, le gouverneur peuvent créer de petites banques humanitaires qui seront achalandées par des actions de solidarité humanitaire. Il y a des commerçants qui peuvent venir de faire des dons. C'est comme ça qu'on peut constituer un stock valable qu'on pourra utiliser en cas de nécessité.
Alors, s'il faut réagir à cette réflexion de l'auditeur de Isangi, qui vous interpelle, vous, notamment, vous, députés, vous, élus nationaux. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale?
Parce au niveau que de l'Assemblée nationale,
la situation perdure. Est-ce que vous n'avez pas été interpellé par cette situation?
Je vous parle de mon propre cas. J'appartiens à un regroupement politique Palou et Allié. Nous avons proposé, quand son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est venu présenter son programme de gouvernement, qu'on prenne en charge la création d'une banque humanitaire, parce que les catastrophes naturelles abondent dans notre pays. Il ne se passe même pas une semaine sans que nous puissions apprendre qu'il y a une catastrophe par-ci, par-là. Nous l'avons dit. Et malheureusement, le Premier ministre, dans sa réponse 48 heures après, bon, il n'a pas réservé une réponse qui puisse, moi, personnellement, qui m'ait donné satisfaction.
Est-ce que les députés ont initié quelque chose à l'Assemblée nationale par rapport à ces inondations?
Mais oui, mais les députés, ils annoncent, avant même qu'il y ait plénière, les députés des provinces concernées, ils prennent parole par motion et ils informent que voilà, chez moi, dans telle région, il y a telle catastrophe qui est survenue. Nous avons perdu autant de gens parce qu'il y a un bateau qui a chaviré. Ils annoncent, les députés. Notre rôle, c'est d'informer le gouvernement et de faire pression sur le gouvernement. Et c'est ce que nous faisons. Je suis content que le ministre actuel des Affaires humanitaires vienne du Parlement. Merci. Et il fera quelque chose, j'espère.
Merci. Mangili Mampangé, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez conclure. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer, n'est-ce pas, pour gérer de manière efficace ce genre de situation?
Le niveau de l'université civile congolaise, nous proposons à ce que qu'on focalise nos paisibles citoyens qui sont à côté du fleuve, à 0 mètre, à quelques 2 mètres du fleuve, qu'on les délocalise et qu'on choisisse près notre quartier où ils peuvent habiter.
Merci.
Afin d'éviter la recrudescence de toutes ces catastrophes naturelles.
Merci, Monsieur le ministre Steve Mikaï. C'est quoi votre conclusion?
Je veux dire à l'ami qui a parlé de Tchopo, qui est, je connais, qui est l'association des inondations de Kisangani. Le dossier est avancé et de finances qui que je passerai par là pour les consoler.
Merci.
On ne va pas oublier, mais aussi je félicite l'honorable député qui parle parce qu'il est très positif et puis il a de très bonnes idées que nous allons, n'est-ce pas, exploiter.
Merci.
Et celui qui a condamné le chef de l'État, le Premier ministre, il doit savoir qu'ils ne sont pas insensibles. Le chef de l'État est informé et dans la directive,
merci,
y compris le chef du gouvernement.
Merci, on n'a plus assez de temps. Docteur Mbakata, un mot en guise de conclusion.
La même chose. La prévention pour que, dès qu'il y a une situation pareille, qu'on puisse réagir dans moins de 48 heures.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique, à Kélin Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté, et bonne suite de programme sur Radio Capi.